Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Une nouvelle, un roman. Parfois, si vous écrivez une nouvelle, vous ne savez pas qu'en faire. Où donc la publier ? Dans les journaux ? Pas toujours possible. Alors, mieux vaudrait écrire un roman ? Selon l'invité de l'émission qui vient, un certain romancier, très célèbre, était bien meilleur nouvelliste que romancier. Les nouvelles, les romans, la discussion était engagée entre Roger Grenier et le producteur Jacques Pogam le 7 juillet 1975 sur France Culture.
Parti pris la nouvelle en question avec Roger Grenier qui vient d'obtenir le grand prix de la nouvelle de l'Académie française pour son dernier recueil, Le Miroir des eaux, et qui avait obtenu déjà en 72 pour un roman, cette fois-là, le ciné-roman, le prix féminin. D'entrée de jeu, Roger Grenier, la question de notre invité de vendredi, Pierre Salinger.
Est-ce qu'il ne trouve pas, comme je trouve, que d'écrire une nouvelle, c'est 10 fois plus difficile qu'un roman ?
Oui, c'est plus difficile. C'est moins embêtant quand même, peut-être. Parce que, évidemment, écrire une nouvelle, il y a une sorte de tension. Il faut jamais faiblir. Il n'y a pas de temps mort. Il faut que tout soit parfait, autant que possible. C'est pourquoi il y a si peu de nouvelles réussies, d'ailleurs. Tandis qu'écrire un roman, eh bien, ça suppose toute une intendance, enfin, si je peux employer ce mot. Et il y a beaucoup de personnages, il faut les nourrir, les vêtir, leur donner un métier, traîner tout un appareil très lourd pour le peu qu'on a à dire, finalement. Seulement, ça permet aussi, ça demande même des temps morts, des repos, des respirations. De sorte qu'on peut un peu se laisser aller dans un roman. Tandis que dans une nouvelle, il ne faut jamais se relâcher. C'est le tir tendu.
Mais quelle différence y a-t-il entre une nouvelle longue, comme par exemple la première des deux que vous venez de publier, sous le titre Le Miroir des eaux, qui s'appelle La Croisière, et un petit roman ?
Je crois qu'il n'y en a pas. C'est un très mauvais exemple, finalement, ce Miroir des eaux, parce que c'est presque par inadvertance que j'ai laissé le mot nouvelle sur la couverture.
Et c'est ça qui vous a donné le grand prix de la nouvelle de l'Académie française.
Non, j'ai mis une nouvelle sur la couverture parce que, à l'origine, j'avais prévu de publier 3 nouvelles en même temps. Et puis, tout à fait au dernier moment, j'ai enlevé la 3e nouvelle parce que je me suis aperçu qu'elle n'allait pas avec les 2 autres. Et puis, j'ai pas pensé à enlever nouvelle du titre. Mais en fait, bon, la seconde, Les Cariatides, est une nouvelle, mais la première, La Croisière, est un petit roman.
C'était une façon pour vous d'obtenir un autre féminin.
Bien, je n'y avais pas pensé, à vrai dire. Enfin, je n'avais absolument pas pensé qu'on pouvait classer d'ailleurs ce livre parmi des nouvelles, et encore moins le primer comme un recueil de nouvelles. Enfin, tant mieux, j'en suis très content, c'est pas la question.
Le public des nouvelles est très limité lorsqu'il s'agit d'acheter un recueil de nouvelles. Par contre, les gens lisent facilement les nouvelles dans la presse. Pourquoi cette différence ?
C'est très difficile à expliquer. Bon, il y a une sorte de lamento qui dure depuis 30 ans ou 50 ans où on dit « Ah, ça marche pas les nouvelles ». Les éditeurs font une tête épouvantable quand on leur apporte des nouvelles. Le public boude, n'achète pas, c'est un fait. On a périodiquement tenté, de façon très louable, de relancer ce genre. C'est pas d'aujourd'hui. Bon, actuellement, cette année, il y a un mouvement comme ça dans la presse et également à la radio et à la télévision pour dire « Ah, la nouvelle revient à la mode ». Mais le public ne suit pas beaucoup, enfin, malgré les efforts des Goncourt aussi pour couronner non seulement des nouvelles publiées, mais même susciter des nouvelles dans les journaux régionaux. Et puis, mais avant la guerre déjà, il y avait une collection que dirigeait Paul Morand qui s'appelait « Renaissance de la nouvelle ». Renaissance, ça en dit long, ça voulait dire que ça ne marchait pas si bien déjà.
Est-ce que la nouvelle, vous citez là, Paul Morand, est-ce que sur le plan intellectuel, la nouvelle n'a pas tendance à être un genre un peu aristocratique.
Je ne crois pas, parce que... Bon, on ne peut pas dire que les nouvelles de Maupassant appartiennent à un genre aristocratique. Enfin, c'est le naturalisme dans toute sa splendeur. On ne peut pas dire non plus que celle de Tchekhov appartienne à un genre aristocratique, ou aux États-Unis celle de Chao d'Anderson. Et pourtant, ce sont des grands sommets dans l'histoire de la nouvelle. Non, ce que je crois, c'est que, c'est triste à dire, mais il y a un peu une question de marché. La nouvelle a fleuri dans les pays où il y a des journaux pour en publier, ou des magazines pour en publier. C'est-à-dire en Russie autrefois, aux États-Unis. Aux États-Unis, entre 1900 et ces dernières années. En France, malheureusement, si vous écrivez une nouvelle, vous ne savez pas qu'en faire, finalement. Où allez-vous, à qui allez-vous la donner ?
La presse pour fin ?
Mais, bon, enfin, je ne veux pas citer de nom de journaux ici, mais enfin, par moment, ces journaux publient des nouvelles, par moment, ils n'en publient plus. Ils disent non, finalement, on n'en publie pas.
Tournier, la semaine dernière, dans Elle, par exemple.
Oui, mais pendant plusieurs années, Elle a renoncé à publier des nouvelles, a préféré publier des extraits de romans. Bon, c'est un choix comme ça. Tandis qu'un écrivain américain, entre les deux guerres, Hemingway, Scott Fitzgerald, Faulkner même, vivait en grande partie des nouvelles qu'il publiait dans les magazines. Parce que non seulement les magazines comme Saturday Evening Post ou Collier's, enfin, ou Esquire publiaient des nouvelles, mais ils les payaient très très cher. Donc les écrivains écrivaient. Et donc après ensuite ça faisait des recueils de nouvelles. Ici en France, ça n'est jamais arrivé. Sauf à l'époque, peut-être en 1900, à la belle époque, là, quand il y avait Le Rire, enfin des journaux un peu polissons, puis qui se rachetaient en publiant justement des contes de Maupassant, des choses comme ça.
1900, c'était l'époque du naturalisme. Est-ce que la nouvelle est par excellence le domaine des petits riens ?
Oui, elle n'est pas forcément naturaliste, enfin elle peut être fantastique. Regardez les nouvelles de Henry James, par exemple.
Mais Tchekhov disait, donnez-moi un cendrier, je vous en fais une nouvelle.
Oui, ça c'est vrai. Enfin, Tchekhov, il a une sorte de source jaillissante comme ça. Justement parce qu'une nouvelle peut partir d'un fait très 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 précis et très limité. Un visage rencontré dans la rue, un fait divers lu dans un journal, et puis on a envie d'écrire une nouvelle.
La nouvelle, c'est le rien vécu.
C'est un petit morceau de vie, enfin, très bien découpé, avec avec des arêtes assez abruptes. Remarquez, enfin, il y a 36 définitions de la nouvelle, je crois qu'il y en a une par auteur, et on ne s'entend pas toujours d'ailleurs sur le genre. Bon, tout à l'heure, vous parliez de la première nouvelle de mon recueil, enfin recueil de deux, qui s'appelle La Croisière. Je vous ai dit que ça aurait aussi bien pu s'appeler un roman. C'est très comparable, pas par le talent, mais enfin par le genre et par la dimension, aux choses que faisait Pavese, par exemple Le Bel Été, enfin, ou Femmes entre elles, ou Le Diable sur les collines. Ben lui, il appelait ça des romans.
Est-ce qu'aujourd'hui, le genre de la nouvelle s'est libéré de l'extraordinaire emprise qu'avaient exercé sur lui les grands écrivains russes, les Gogol, les Tourguenev, les Tchekhov ?
Ça dépend beaucoup des auteurs, enfin, du tempérament de chacun et des goûts de chacun.
Pour vous, quels
moi,
sont
je
les,
me sens pas,
grands,
je me sens pas libéré de Tchekhov, moi, par exemple. Enfin,
mais... En quoi vous a-t-il marqué ?
Oh, je crois que ce serait trop long à dire, parce que mille choses m'intéressent en lui. Enfin, c'est un auteur qu'on plus on le relit, plus l'image qu'on sait de lui change. Superficiellement, si on lit deux ou trois nouvelles de Tchekhov, on se dit bon, c'était un homme bon, gentil, avec un certain humour. Et puis si on lit tout, par exemple, On étouffe tout à coup, on se dit, moi, j'ai jamais rien vu de plus noir, enfin, c'est une vision totalement pessimiste. On se rend compte que sous sa politesse extraordinaire, il n'aime personne, que lorsqu'il est serviable, c'est par masochisme, enfin. Il y a vraiment un monde absolument fantastique à découvrir sous la douceur de Tchekhov et son air de ne pas y toucher. Et alors, je trouve qu'il a écrit quelques nouvelles qui sont parmi les plus belles de la littérature universelle. Je ne sais pas, une nouvelle comme Ma vie, ou comme Une banale histoire, ou comme La steppe, ou comme Salle 6. Ça contient tellement une réponse, ou tout au moins des questions fondamentales, enfin, sur ce qu'est la vie et ce que peut dire la littérature à ce sujet, qu'on ne peut pas faire mieux. Mais enfin, il n'y a pas que Tchekhov. Par exemple, moi, je trouve qu'un des plus grands auteurs de nouvelles, c'est un auteur qui est célèbre, au contraire, pour ses grosses machines, c'est Melville. Et Melville, ce n'est pas que Moby Dick. Alors, même ce qui est très frappant, c'est que Melville, dans le fond, à l'âge de 30, 32 ans, avait déjà raté sa carrière littéraire, c'est-à-dire qu'il avait fait Moby Dick, qu'il avait fait Mardi, qu'il avait fait Pierre ou les Ambiguïtés, qui étaient trois énormes romans, très très ambitieux, et que ça a été un flop, que personne ne l'a compris et personne ne l'a apprécié. Et il a renoncé à la littérature. Et pour gagner un peu d'argent, il s'est mis à écrire des nouvelles. Et je trouve que ces nouvelles absolument sublimes, enfin, la plus sublime étant Bartholdi l'écrivain en particulier.
On oppose souvent, justement, les auteurs de romans et les auteurs de nouvelles, alors que la plupart du temps, ce sont de très grands romanciers qui ont été aussi les très grands auteurs de nouvelles.
Oui, c'est même très curieux. Si vous prenez Henry James, par exemple, quand vous lisez des romans de Henry James, et Dieu sait s'ils sont de gros romans, vous êtes obligé de constater qu'il a le plus grand mal à démarrer une histoire, à entrer dedans, qu'il est assez maladroit, et qu'il faut en général 100 pages pour commencer à s'intéresser à ce qu'il va nous raconter. Donc on se dit, c'est un homme qui doit être incapable d'écrire une nouvelle. Or, il a écrit des dizaines et des dizaines de nouvelles, qui sont toutes des chefs-d'œuvre. Il y en a une édition anglaise qui comporte 12 volumes.
Vous voulez dire qu'il se sentait plus léger quand il abordait la nouvelle?
Oui, il n'avait pas cet embarras.
Et pour vous, quels sont les grands aujourd'hui dans ce domaine de la nouvelle?
Dans la nouvelle, il y en a à l'étranger, je ne sais pas, Pavese, Vittorini. Aux États-Unis, Saul Bellow.
Il y a eu Salinger aussi, non?
Salinger, je n'aimais pas beaucoup. Je crois que c'était la monnaie de Scott Fitzgerald.
C'est méchant, ça.
Oui, c'est méchant, mais enfin bon.
Mais l'avenir a l'air de vous avoir donné raison.
D'ailleurs, oui, on ne parle plus beaucoup de lui. Il y a quelques Russes qui écrivent des nouvelles très belles encore. Il y a Kazakov, malheureusement, j'ai l'impression qu'il a cessé d'écrire lui aussi. Il y a des Tchèques, enfin, les nouvelles de Kundera, moi, me touchent beaucoup. Et puis en France, il y a beaucoup de gens qui écrivent des nouvelles et c'est souvent très réussi, comme Daniel Boulanger, par exemple.
En France, on a l'impression justement que l'on évolue vers la très grande simplicité, le dépouillement le plus complet. Boulanger, Arlan, vous.
Boulanger, je ne dirais pas que c'est sa simplicité, parce que c'est une sorte de préciosité. Il a des bonheurs d'expression, des trouvailles qu'on peut lui envier. Enfin, c'est très recherché, finalement.
Mais dans le geste qu'il décrit.
Ah oui, c'est très simple ce qu'il raconte. C'est petit univers de cartes postales, de vie de province, avec des originaux.
Et le domaine du fantastique?
Alors, le domaine du fantastique, évidemment, a permis une nouvelle éclosion du genre court, quoi. Enfin, je ne sais pas s'il faut appeler ça des contes ou des nouvelles à ce moment-là.
Mais quelle est la différence que vous faites entre un conte et une nouvelle?
Ben justement, enfin, je crois qu'une nouvelle est très près de la vie et de la réalité, tandis qu'un conte s'abandonne plus à l'imagination, voire à une imagination irréaliste, enfin, comme dans le conte fantastique, ou dans la science-fiction, qui est aussi, évidemment, a permis de faire fleurir beaucoup de nouvelles. Alors dans le fantastique, il y a les maîtres sont les Allemands, évidemment. Enfin.
Pourquoi, évidemment?
Je pense que c'est l'héritage du 19e siècle allemand, enfin, de Hoffmann, de von Brentano. Enfin. Il y a, Il y a des choses très peu connues comme ça, qui sont des grands chefs-d'œuvre. Il y a un auteur allemand qui s'appelle Evers, je ne sais pas si vous connaissez. Il a mal fini parce que c'est il est devenu nazi. C'est lui qui a composé le Horst Wessellied, je crois. Mais enfin, avant d'être nazi, il avait écrit quelques contes fantastiques qui sont absolument extraordinaires. Un qui s'appelle L'araignée en particulier, où il y a
c'était un présage.
C'est un présage. Tous les locataires d'une maison sont fascinés par quelque chose qui meurt, enfin se pendent. Et on finit par comprendre qu'ils sont fascinés par quelque chose qu'ils voient dans la fenêtre en face. Et on ne sait pas si c'est une femme ou une araignée. Le regard d'une araignée. Alors j'ai oublié, mon Dieu. Je crois que c'est là où maintenant la grande dimension de la nouvelle fantastique fleurit le plus. C'est l'Amérique latine, avec des gens comme Cortázar.
Un phénomène de compensation?
Je ne sais pas, mais enfin il y a des gens là qui ont un sens du fantastique et puis une habileté littéraire, un raffinement littéraire absolument extraordinaire. Enfin, toute la filière de Borges, Cortázar, Silvana Ocampo, Bioy Casares. Enfin.
Aujourd'hui, est-ce que la nouvelle peut être un terrain d'expérimentation du langage comme l'est en partie le roman?
Sûrement, et c'est même peut-être. Je crois qu'on peut s'amuser avec. Dans la dimension d'une nouvelle, je ne dis pas que le résultat est une nouvelle, mais enfin on peut s'amuser, justement, faire des expériences.
Il y a eu une nouvelle comme il y a eu un nouveau roman?
Non, on n'a jamais parlé de nouvelle, mais on ne s'est pas défendu d'en faire, enfin.
Et quel rapport faites-vous entre la nouvelle et la poésie?
Oh, je crois que. Bon, nous assistons actuellement à une fusion de tous les genres. On publie des livres, alors par habitude, on continue à mettre roman ou nouvelle dessus, ou essai, et souvent c'est absolument indémêlable. Enfin, il y a des essais qui ne sont plus seulement discursifs, mais qui laissent une part tout à coup au récit, ou à l'imaginaire, ou à la confession. Je ne sais pas, lorsque Roland Barthes écrit un livre sur lui-même, eh bien, est-ce que c'est des mémoires, est-ce que c'est un essai, est-ce que c'est de la philosophie, est-ce que c'est de la poésie, c'est...
Et Lacan,
Oui, c'est de la poésie, alors là.
Vous, Mallarmé, ça ne vous a pas tellement marqué comme écrivain?
Mallarmé, c'est très important. Je veux dire, non, je ne me sens pas du tout un enfant de Mallarmé, mais enfin... Ce qui est très important, c'est son idée totalitaire de la littérature, essayer de tout faire entrer dans un livre.
Et ça vous inquiète?
Ça ne m'inquiète pas, non. Je crois que c'est un rêve de chacun, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde, bien sûr.
Ciné-roman, vous venez d'avoir le Grand Prix de la Nouvelle de l'Académie française pour Le Miroir des Eaux. Dans quel genre vous sentez-vous le plus à l'aise?
Ça dépend vraiment de ce que j'ai à dire. Personnellement, moi, je n'écrirai jamais Guerre et Paix, hein, ou Autant en emporte le vent. Je crois que je suis plus à l'aise dans les nouvelles quand même. Et même, on a pu me faire remarquer que ciné-roman, c'était parfois un petit peu des nouvelles les unes derrière les autres, enfin.
Après ciné-roman, on s'attendait, puisque vous aviez eu un féminin pour 100 000 exemplaires au moins, on s'attendait à ce que vous exploitiez la veine, le filon. Or, vous choisissez de publier un recueil de nouvelles, c'est de l'apostolat.
Non, mais enfin, j'écris ce qui me plaît, enfin, dans le fond.
Il y a beaucoup aujourd'hui d'écrivains qui écrivent ce qui leur plaît.
Je crois, enfin bon, il y a peu d'écrivains qui vivent de leur plume. Alors, si on ne vit pas de sa plume, non, on fait un métier. Et si on fait un métier, on a la matérielle assurée, donc on peut écrire ce qu'on veut.
L'écriture est un plaisir pour vous?
Absolument, enfin, si ça m'embêtait, je n'écrirais pas, c'est évident.
Mais d'autres, même,
il y a des gens qui souffrent en
écrivant pour la gloire.
Oui, il y a des gens qui souffrent en écrivant, et ça je comprends très mal. si ça me faisait souffrir d'écrire, je n'écrirais pas.
Vous voulez dire que ça n'est pas nécessaire à votre équilibre d'écrire ?
Ah si, justement. Justement, mais enfin, je... Bon, disons, c'est peut-être une activité de compensation ou une activité narcissique, mais enfin, je suis content quand j'écris. Parce qu'il y a des gens qui se donnent beaucoup de mal, qui ont des tortures épouvantables, enfin, qui accouchent dans la douleur.
Avec le féminin, vous avez connu ce qu'on appelle la gloire. Ça n'a pas l'air de vous avoir touché particulièrement.
Ça vient peut-être du fait que je trempe quand même depuis très longtemps dans le milieu littéraire. Je travaille dans une maison d'édition. Avant d'être dans une maison d'édition, j'ai fait du journalisme littéraire, enfin non littéraire aussi, mais enfin. Donc ça fait très très longtemps que j'assiste à des distributions de prix. Au moment où j'ai reçu le féminin, j'ai retrouvé des vieilles photos où j'étais déjà autour de la table des dames du féminin, mais je tenais un micro et j'étais en train de les faire parler. Alors,
Vous parliez de votre expérience de journaliste, vous avez même fait du rewriting. Est-ce que ça vous a aidé dans la construction ensuite de nouvelles ?
Je crois que le journalisme est très, très favorable aux nouvelles.
Pourquoi ?
Parce que justement, on est projeté tout à coup dans un univers chez des gens qu'on ne connaissait pas une heure avant et qu'on va quitter une heure après, mais où on découvre tout un monde, on a envie d'écrire leur histoire.
Vous êtes un spectateur ?
On n'en sait pas assez pour écrire un roman, alors on écrit une nouvelle. Il m'est arrivé il y a d'autres nouvelles de moi qui sont des reportages où j'ai pratiquement pas changé un mot.
Et le directeur du journal s'en est aperçu ?
Je ne sais pas.
Vous écriviez, ou plutôt vous faisiez dire à l'un de vos personnages dans un recueil de nouvelles paru en 1961 qui s'intitulait Le Silence. Ce personnage était un romancier. Scott Fitzgerald et Hemingway, je n'arrive pas à me sortir de là. Tout à l'heure, vous avez justement cité Hemingway et Scott Fitzgerald.
Oui, j'en suis un peu sorti quand même depuis, parce que le temps passe. Scott Fitzgerald, il a un charme, bien sûr, c'est usé maintenant de le dire. Il a écrit beaucoup de nouvelles poussées par la nécessité. Il y en a des très mauvaises, mais il y en a des très bonnes. Ce qui est pire que tout, c'est que des fois, il en écrivait des bonnes, et puis ensuite, il les abîmait exprès pour pouvoir les faire accepter par des magazines.
On a dit que vous aviez en commun avec lui le sens de la fin de la nouvelle, de la chute dramatique, c'est vrai ?
Je crois pas, non, d'autant plus que souvent il n'y a pas de chute dans mes nouvelles.
Ça se termine souvent très mal. Prenons les deux dernières que vous venez de publier, ce qui se passe pour Judith ou pour Monique, c'est quand même pas
oui,
très
c'est
agréable.
Pas, bien sûr. Bien sûr, mais je veux dire, il n'y a pas... C'est pas dans la dernière phrase que la catastrophe arrive.
Non, elle est préparée.
Ça finit
par une lente désillusion. En quoi votre peinture de la province française est-elle différente de celle d'un Arlan, par exemple?
C'est peut-être pas la même province, c'est pas la même génération non plus. D'autre part, je crois qu'Arlan est un homme très, très original, je veux dire, qui a vraiment une existence personnelle très très profonde et qui ne se communique pas tellement, qui ne ressemble pas tellement à celle que d'autres peuvent avoir.
Et chez vous, on retrouve le même temps qui s'arrête dans des petites villes de province avec des gens qui sont un petit peu à l'écart de l'histoire et le même recul un peu pudique vis-à-vis des choses. C'est rare aujourd'hui.
Oui, ça c'est... Bon, c'est parce que c'est une province rêvée, finalement. J'ai vécu plus à Paris qu'en province, finalement.
Mais votre enfance, c'est le sud-ouest.
J'ai passé mon enfance dans le sud-ouest, qui ne ressemble plus sûrement du tout à celui que j'ai connu.
Votre monde, au fond, c'est celui de la désillusion, la désillusion de la vie, la désillusion de l'amour. À peu près tous vos personnages restent face au silence.
Oui, ça penche vers le silence, oui, ça c'est vrai.
Vous vous sentez solidaire de tous les paumés de la Terre ?
Un peu. En tout cas, je choisis toujours mes personnages parmi eux parce qu'il n'y a vraiment que ceux-là qui m'intéressent.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 juillet 1975.